Vous êtes sur RTL.
À midi, pardon.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
On est très heureux de vous retrouver. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voilà, RTL vous régale. On s'installe, on est en place. Tout le monde est en place?
Bah oui,
tout
on
monde est
tous
là,
là.
Je vérifie. Voilà, les. Monsieur est là aussi, monsieur Petit-Demange est là.
Oui.
Tout va bien, tous
bonjour.
Les jours en direct de 11h à midi et demi, même les jours fériés.
Oui, on a vu de la lumière, on est quand même.
Voilà. C'est une petite épicerie qui fonctionne tous les jours. On est là en cette fin de matinée, direction aujourd'hui la Charente-Maritime et plus précisément l'Aunis-Saintonge. On est autour de La Rochelle.
Voilà.
On va résumer ça comme ça. Au menu des huîtres, les huîtres de Marraine d'Oléron, les petites pommes de terre de. Marraine d'Oléron, c'est ce que j'ai dit. Les petites pommes de terre de l'île de Ré, les recettes de Louana, l'ambassadeur du jour, ce sera notre ami Bruno Guillon, qui est évidemment le régional de l'étape.
Saint-Jean-d'Angely.
Et évidemment, ouais. Il nous fera la carte postale de sa région, nous donnera ses coups de cœur du marché. Et puis on a retrouvé le dernier producteur au monde. Tenez-vous bien, à faire de la jonchée artisanale. On vous expliquera ce que c'est que la jonchée. C'est un fromage, hein, c'est un fromage frais.
Non.
Si.
Non, non, vous n'avez pas le droit de dire ça.
C'est un fromage frais.
C'est une œuvre d'art.
Oui, mais c'est à base de jonc naturel et de lait cru.
C'est une œuvre d'art.
On en parle dans quelques minutes. RTL vous régale, le rendez-vous des gourmands, des épicuriens, des ripailleurs et des gourmets. Bienvenue si vous vous retrouvez dans cette description. Et si vous nous rejoignez ce matin, nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi et demi avec à mes côtés mes camarades et le jeu du défi frigo sur lequel ils vont s'affronter tout à l'heure. Autant vous le dire, aujourd'hui, Jean-Sébastien pourrait marquer son deuxième point de la semaine. Il mène 1-0.
C'est vrai.
Et je vous explique pourquoi. Cet homme a fomenté une espèce de stratégie. Il a ourdi un complot contre Louana Belmondo.
C'est vrai.
Et j'ai des preuves.
Merci de me défendre.
J'ai des preuves.
On ne dénonce pas.
Il va jouer sur la fierté nationale en ce 14 juillet. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Vous jouez avec nous, vous nous dites ce que vous avez dans votre frigo et vous repartez avec une montre RTL ainsi qu'un guide du routard offert par les éditions Hachette pour jouer avec nous. C'est facile. 3210 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64 900. Alors au Nice Saintonge, moi je vais être honnête, avant que nous en parlions dans cette émission, je ne situais pas très bien. Je vous le dis très sincèrement, là-dessus j'ai fait ma Bérénice. Deux anciennes provinces historiques et culturelles françaises, on va vous en parler dans quelques instants. A tout de suite sur RTL.
Passez une bonne journée et un bel été avec RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Petite leçon de géographie, très rapidement pour vous situer la région dans laquelle nous nous trouvons ce matin, l'Aunis-Saintonge. Jean-Sébastien, vite fait.
Ces deux anciennes provinces historiques et culturelles françaises, l'Aunis, correspond au nord du département de la Charente-Maritime. Grosso modo, c'est La Rochelle, Surgères, Marance, Rochefort, l'île de Ré, ainsi que Oléron, Aix et l'île Madame. Elles appartiennent à la Saintonge, ces trois îles, et la Saintonge, c'est au sud, en fait. C'est une autre province française qui avait pour capitale Sainte, qui est un peu plus à l'intérieur des terres. Donc, du coup, ça va du nord de Fontenay, qui est dans les Deux-Sèvres, et on descendait au Nice-Saintonge jusqu'au sud, jusqu'à Chalais, qui, elle, se trouve dans le département de la Charente. En fait, tout ce coin-là, on en reparlera dans quelques semaines maintenant, puisqu'on parlera de l'Angoumois, qui est la troisième ancienne province qui forme aujourd'hui ce qu'on appelle les Charentes. Comme le dit le guide du Routard, on est les premiers à avoir réuni Charente-Maritime et Charente dans cette entité entière que sont les Charentes. En attendant, c'est un endroit, peu importe le nom, l'important c'est qu'il y a des choses absolument magnifiques à voir. Il y a mille choses à découvrir. Déjà, vous avez le fleuve Charente qui est au cœur de ce pays, qui forme des paysages vallonnés, baignés par une lumière veloutée. Les hommes ont égrené là-bas quelques trésors architecturaux. Il y a des maisons charmantes, il y a des églises romanes, tout cela menant sur une côte atlantique intégralement séduisante avec des villes qui s'appellent La Rochelle, qui s'appellent Rochefort avec sa corderie royale, qui s'appellent Royan avec son architecture si particulière des années 50. Il y a Saint-Palais-sur-Mer, il y a Ronces-les-Bains qui sont des stations balnéaires choucardes, au possible, ultra familial, tranquille. Et puis, pour sublimer tout cela, il y a des produits incontournables, au premier rang desquels les huîtres de Marraine Oléron. C'est quand même le truc sublime total.
Elle est un peu la marraine de cette émission aussi, d'ailleurs. Louana Belmondo.
Bon 14 juillet à vous.
Mais avec plaisir, si je peux rendre service. On fait du vélo sur l'île de Ré, on se promène.
Oui, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous que vous faites beaucoup de vélo. Et donc, l'île de Ré, en fait, moi, je l'adore parce que c'est un paysage vraiment différent à chaque fois. Alors,
elle est très plate. On est d'accord, c'est pas la plus montagneuse.
Non, elle est très plate. Mais il y a des zones boisées qu'elles sont tournées vers l'océan, des vignobles, des plages, des sables fins. Absolument très très beau. Et les marais salants avec son or blanc, bien sûr, que c'est le sel. Alors c'est là que Jean-Michel, vous allez prendre votre vélo et vous allez vers les marais salants. Mmh. Et puis vous allez vous arrêter à la cabane du Fénon. Alors c'est un charmant restaurant tout petit, tout petit. Et on paye, c'est vraiment cabane des pêcheurs. Hein. Et on peut déguster. Alors on vous apporte tout ça dans un panier. Vous savez, un joli panier en bois. Et on mange des délicieuses huîtres, d'autres fruits de mer. Et au même temps, on admire ces marées. Et vous savez, quand on a les marées avec le sel, il y a toujours une lumière particulière. Mmh. Parce qu'en fait, le soleil s'est reflé dans les cristaux. Et c'est quelque chose vraiment de très beau. Après, mon coup de cœur va à l'insolite. Alors là, c'est mon ami Bernard qui me l'a fait connaître. L'insolite, c'est la maison de Sébastien Boutet. Et elle est adossée à l'église de Saint-Martin-des-Ré. Et c'est un lieu qui anime absolument le village. L'ambiance est complètement intimiste. Ce restaurant, l'insolite, il est ouvert toute la journée. Il est accueillant. On y va vraiment de façon décontractée. On y goûte une cuisine très spontanée, vivante, fraîche. Il travaille avec des produits du terroir. On commence par exemple. On en a parlé la dernière fois avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Il avait envie d'un poêlé des crevettes vivantes. Eh bien, chez Sébastien, on les trouve. Faut juste sauter au beurre salé, les filets des rouges avec des petits légumes et une délicate sauce safranée, les barres entières cuits à la plante. Les moules gratinées. Je pourrais jamais m'arrêter tellement tout est bon dans cette carte et le lieu est tellement intimiste et joli qu'il fait vraiment, c'est vraiment le cœur de ce village. Après, il y a au cœur de l'Onis, on va aller à Taillebourg. Alors là, c'est un village tout petit qui compte que 750 habitants hors touristes, donc hors saison. Il est très charmant. On dirait qu'il sort directement d'un conte de fées, tout comme le restaurant où je vous amène, c'est l'auberge des Glycines. Alors là, il règne une atmosphère, un cadre encore une fois chaleureux et on va se détendre. Je vous conseille, avec votre vélo, toujours Jean-Michel, d'y arriver une heure un peu avant le coucher du soleil, de vous asseoir sur la terrasse qui donne sur la rivière et à l'ombre de cette glycine centenaire. Et là, vous allez manger par exemple une tarte tatin des tomates fraîches avec des oignons confits ou alors la merveille terrine de lapin avec des pistaches à l'intérieur et puis on mange bien sûr des sels d'agneau.
Quand on arrive à vélo, on repart
à pied en poussant le vélo. Alors, juste goûter le soufflet au Grand Marnier. C'est juste un moment absolument génial.
Justement, en parlant de vélo, ça me fait penser, il y a un formidable
guide du routard.
Guide du routard, Vélodyssée. Qui s'appelle la Vélodyssée, qui va de la Bretagne, ça descend de Roscoff jusqu'à Andaille, et il y a un parcours formidable, de La Rochelle à Royan, 145 km en vélo, qui est totalement détaillé. Vous allez passer par tous les endroits, dont on va parler, c'est absolument formidable, et surtout, il y a des itinéraires qui sont dédiés au vélo, des pistes cyclables, des voies dédiées sur les routes. Je ne peux que vous conseiller, d'acquérir ce guide-là.
Nous sommes dans l'Onis et la Saintonge aujourd'hui, dans RTL vous régale. On est entre amis, entre copains, on casse la croûte tous les jours entre 11h et midi et demi en direct sur RTL. Living in a Ghost Town, voici les Rolling Stones.
You can search for me. I have to go on.
les attendez depuis 8 ans, ils sont de retour pour un nouvel album attendu dans les mois à venir. C'est toujours un événement et ce sera forcément un événement mondial. Living in a Ghost Town, la chanson qui annonce le nouvel album des Rolling Stones sur RTL. Tiens, vous voulez gagner des cadeaux ? Ils sont en pagaille sur RTL tout l'été, en tout cas jusqu'au mois d'août. C'est le grand jeu RTL de l'été. Vous allez pouvoir jouer avec nous dans moins d'une demi-heure pour tenter de gagner ce matin un MacBook Air ou une trottinette électrique. Vous vous inscrivez dès maintenant au 3210. Vous envoyez RTL par SMS au 74 900. Je vous dis bonne chance et rendez-vous dans moins de 30 minutes.
C'est l'été sur RTL.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Il est 11h20, RTL vous régale en direct sur RTL. Chaque jour de l'été, on est en bord de mer aujourd'hui. Évidemment, on va vous parler de ce qui fait le succès, la réputation de cette région du bassin de marée de Oléron. On va vous parler de ces huîtres qu'on adore, si je vous dis fines de clair, spécial poussant clair, etc. Oh là là, on s'en ouvrirait bien une petite bourriche.
Ah bah allez-y.
Oh, j'en rêve.
Vous n'avez pas apporté votre couteau. Ouais, mais non, c'est dommage. C'est que la filière ostréicole du bassin Marais-Oléron s'est dotée de labels officiels, de signes de qualité qui garantissent justement la qualité de ses produits. Les huîtres bénéficient d'abord d'une indication géographique protégée. Deux d'entre elles, la fine de clair et la pousse en clair, détiennent un label rouge, ce qui est un autre signe de qualité en plus de l'IGP. Et leur production, leur affinage sont soumis à des normes extrêmement exigeantes. Ce qu'il faut savoir, parce qu'on parle toujours de fines de clair, on ne sait pas forcément ce que c'est. Les huîtres, évidemment, sont élevées pendant quelques années en pleine mer, entre Oléron et la côte. Elles sont retournées dans des sacs. On les retourne régulièrement pour qu'elles grandissent. On les change de sac quand elles grandissent pour qu'elles aient de la place, pour qu'elles prennent du volume, de l'ampleur. Et puis, une fois qu'elles sont belles, qu'elles sont à taille
adulte,
on les emmène et on les met en clair.
Là, on les affine.
Et là, oui, mais c'est quoi une clair? C'est pas un bassin d'eau comme ça.
C'est de l'eau claire.
Alors, on les met dans des anciens marais salants, ouais, qui sont remplis d'eau, et on en met un nombre calculé précisément pour en faire justement des fines de clair, des pousses en clair, et pour laisser grossir. Plus elles sont grosses, moins il y a d'huîtres dans l'ancien bassin. Et en fait, elles se nourrissent de cette navicule bleue, qui est une petite algue qui donne ce côté vert bleuté à la chair de l'huître et qui lui donne ce goût si particulier. En fait, les huîtres de Marais-Oléron, comme elles sont élevées, elles sont affinées dans ces bassins en clair, elles perdent un tout petit peu de leur côté iodé, elles gagnent en chair et elles deviennent, c'est des huîtres extrêmement douces qui sont un bonheur pour manger comme ça, effectivement, à l'apéritif. On peut s'en faire 2-3 douzaines facile, et c'est un vrai plaisir.
C'est quoi cette histoire finalement? On peut faire le point une bonne fois pour toutes sur cette histoire de on mange pas d'huîtres, les grands R, tout ça, machin.
Oui, il y a longtemps.
Oui, c'est ça, c'est Louis XV.
Enfin, non, mais en fait, c'est tout simplement que à l'époque où on voyageait à cheval avec les chasses marées, vous imaginez bien que l'huître voyageant en juillet ou en août ou en juin, il faisait un peu chaud. Donc l'huître avait chaud.
Mais donc ça n'a rien à voir avec la reproduction des huîtres.
Ah, ça n'a strictement rien à voir.
Parce qu'on dit
ça.
Pareil pour les moules.
C'est pareil pour le soleil et les chasses marées.
On
peut respecter la chaîne du froid, où on peut emmener des huîtres à l'autre bout du monde dans des avions.
Non, mais parce qu'on lit souvent que on interdisait, oui, le prélèvement des huîtres pendant les mois en mer pour préserver la ressource, puisque ce sont pendant ces mois-là, oui, qu'elles se reproduisent.
C'était à l'époque où on les élevait pas. Aujourd'hui, les naissins sont contrôlés, ils naissent généralement en Bretagne. On emmène ces huîtres un peu partout sur les bassins d'élevage, et tout cela est très contrôlé. Effectivement, la seule différence, c'est que si on parle d'huîtres diploïdes, parce qu'on peut aussi rentrer dans ce débat-là, les huîtres en été sont plus laiteuses, parce que quand l'eau de la mer est un peu plus chaude, les huîtres font de la laitance. Et donc, ce qu'on appelle une huître un peu plus grasse. Il y a des amateurs. Moi, j'adore ces huîtres d'été. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Effectivement, On s'est affranchi de ce problème d'huîtres grasses avec les huîtres triploïdes. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, ce sont des huîtres qui sont génétiques. Enfin, je vais me faire un... C'est génétiquement modifié et c'est des huîtres qui sont stériles, donc ils ne font plus de laitance.
D'accord. Bon, voilà. Il y a deux écoles, quoi. Il y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas.
Oui, voilà. Il y a plein d'écoles différentes.
C'est ça. Bon, on va trancher. Comment on les choisit, les huîtres, Louana?
Alors, avant de vous dire il y a quelque chose que moi, je ne comprenais pas avant de préparer cette émission. Vous savez qu'il y a des numéros. Quand on va chez le poissonnier, quand on va dans un restaurant, il y a des chiffres qui sont associés aux huîtres.
Bien sûr.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, c'est des calibres de l'huître qui vont des 0 à 5. Pour vous faire un exemple, le chiffre indique la densité de la chair. Plus le chiffre est petit, plus l'huître sera charnue. Alors, pour, par exemple, si on fait un apéritif. Alors, moi, je l'aime bien charnue. Hein. Pour faire un apéritif, on va choisir plutôt une petite taille, comme la numéro 5. Ça veut dire qu'elle va être très fine.
Pour c'est la qu'on a du mal à en trouver, hein, quand même.
C'est mais oui, c'est vrai, mais bon.
La moyenne, c'est quoi?
3.
C'est numéro 3.
Personnellement, dégustation, comme il vient de dire Jean-Sébastien, au naturel. Enfin, cette huître-là ne demande ni citron,
pas de vinaigre, pas d'échalote, rien de tout ça.
Ça serait un dommage. Et puis, vous savez, au lieu de la déglutir comme ça, glouc, comme je vois souvent faire.
Glouc.
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 En fait, très souvent.
Très bien non.
Non. Ben non, il faut la mâcher pour dégoûter.
Et comment
vraiment.
On fait et
on clac, 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 clac. Ah, ouais.
Et on fait pas.
Et on mâche.
On fait clac, clac, clac.
Et là, on dégage tout sa saveur en bouche. Alors, très important, c'est la fraîcheur. Il faut pas. Une huître peut rendre vraiment malade. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a été malade avec une huître. Donc, l'huître, elle doit être vivante, bien vivante. Elle doit se rétracter avec la pointe du couteau quand on l'ouvre nous-mêmes. Mais tester avec un petit peu de jus de citron, si vous voulez. Elle doit toujours se rétracter. Elle se conserve très bien en condition de les garder dans une température fraîche et toujours constante. Si vous avez un garage, moi je les mets dans un garage, sinon au réfrigérateur entre plus 4 degrés et plus 6 degrés.
Voilà. Pour
surtout
les huîtres.
Ce qu'il faut, c'est quand on les ouvre, il faut vider la première eau, la rincer et lui laisser refaire sa deuxième eau à l'huître. Elle n'en sera que meilleure.
Peu calorique, riche en oligo-éléments, en vitamines, goûteuses, iodées, les huîtres françaises n'offrent que des bienfaits. Voilà l'esprit d'RTL, vous régale tous les jours. C'est comme ça. 1987, Fred Chichin, Catherine Ringer, Lerita Mitsouko, c'est comme ça sur RTL. RTL vous régale, de retour dans un instant. On vous emmène sur le marché, à tout de suite.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Allez, demain nous serons sur le marché de Neuilly. On n'ira pas très loin cette semaine, ouais, puisqu'on reste à Paris. On traversera la rue devant RTL, ouais, et on vous parlera de tout ce qu'on y trouve. Et vous allez voir que c'est surprenant. Cela dit,
on va
aujourd'hui
parler des marchés de Paris.
Voilà, aujourd'hui on est sur la côte et on en profite. On est sur le marché. Évidemment, on va parler des produits de la pêche. On va parler dans un instant de palourdes, de poissons. Qu'est-ce qu'on trouve comme poisson sur les marchés du côté de la Charente en ce moment?
Alors il y a le maigre, c'est un truc fabuleux, ouais. C'est un poisson autochtone qu'on trouve sur les côtes de la Charente, c'est un poisson extraordinaire. Et puis alors il y a une autre chose, moi j'adore ça, qu'on ne trouve que là-bas, c'est le céto. C'est une espèce qui est pêchée exclusivement en Charente-Maritime et Gironde, mais c'est une vraie pêche traditionnelle. Et en fait, c'est une petite sole.
Frit, c'est magnifique.
J'avais une sole, les soles, ça fait 300-400 grammes.
Ça, c'est une solette, quoi.
Non. C'est une solette, c'est un bébé sole. Hein. C'est tout, c'est différent. C'est une autre. Céto, ça fait. Allez, à peine 100 grammes. Et c'est un truc, mais d'une finesse. C'est avec juste frit dans un peu de beurre salé. Vous arrosez comme ça vos cétos dans la poêle. C'est un truc, c'est absolument divin. Et c'est surtout 4 ou 5 fois moins cher que la sole.
Moi, je lancerais bien quelques palourdes dans une casserole sec, un peu d'ail, du persil,
oui,
un peu
de vin blanc. Italien qui est un peu de spaghettis.
Oh là, du piment. Oh là là.
Quelques pâtes.
On en trouve des palourdes en ce moment.
Il y en a plein, c'est la pleine saison.
C'est la pleine saison.
C'est des coquillages fouisseurs, vous savez. C'est faut aller les chercher. Ils s'enfouissent, ils se cachent, ils ont peur de vous.
Je les comprends.
Dès qu'ils voient le Jean-Michel Zeka, c'est sur une plage à marée basse.
Jean-Sébastien, on en a mangé ensemble il y a même pas un mois. On s'est fait une bonne.
Absolument. On s'est fait des pâtes
vongolais.
C'était absolument magnifique. C'est un peu grisâtre. Ça fait grosso modo 4 cm. Là, il y a un truc à savoir. Il faut savoir que la palourde mâle a des stries très marquées. La femelle est beaucoup plus lisse. Comme ça, vous allez pouvoir savoir si c'est une palourde mâle ou une palourde femelle.
Il y a des malades qui ont braqué des palourdes.
Il paraît.
Vous avez entendu cette histoire?
Oui, il paraît.
2 tonnes volées en 2018.
Ah oui, parce que si vous voulez, c'est extrêmement réglementé la cueillette des palourdes. Et vous avez des amendes qui sont très importantes si vous êtes pris avec plus de palourdes.
N'empêche, faut le faire. Hein.
Que vous n'avez le droit. Bah oui, mais.
Braquer 2 tonnes.
Bah, je peux vous dire qu'ils ont braqué une banque. Hein.
Casa des palourdes.
Oui.
Dites-moi, on les nettoie comment pour être pratique?
Même si souvent, quand on va les acheter, ils vous disent bon, c'est pas la peine, vous pouvez les cuire tout de suite. Non, il reste toujours un petit peu de sable dans les palourdes. Donc, il faut remplir un bassin avec de l'eau. Moi, je mets un petit peu de sel gris.
Enfin, vous faites juste une casserole, hein, parce que c'est pas la peine.
Une casserole, oui.
C'est pas la peine de
creuser
un bassin non plus.
C'est pas la baignoire, c'est une casserole. Hein. On l'arrête.
Enfin, sauf si vous avez les 2 tonnes.
Sauf si c'est vous.
On l'a rempli avec de l'eau froide, du sel gris marin, et on installe justement les palourdes dans une passoire, qu'on la pose justement dans cette casserole d'eau. Il ne faut pas qu'elle touche le fond. Il faut qu'elle soit, qu'elle reste immergée à peu près complètement pendant 2 heures. Et alors, quelque chose. Si vous avez des palourdes qui remontent à la surface, si elles sont un peu ouvertes, un peu cassées, jetez-les. Je vous en prie, jetez-les. Il faut les consommer le jour même. Autrement, vous pouvez les garder 48 heures dans un linge humide. Dans un linge humide, dans la partie basse du frigo. Maximum 48 heures. Et puis, on va faire les bons spaghettis, les vongolais.
Évidemment.
Juste, si vous faites les spaghettis, le vrai secret pour bien les réussir, une fois que les vongolais ont ouvert dans de l'huile d'olive, dans tout ce que vous voulez, vous allez filtrer l'eau qu'elles ont jeté pendant l'ouverture, et vous allez la filtrer, et c'est là que vous avez tous les arômes marins, iodés de cette magnifique.
Réduire un petit peu le jus de cuisson.
Après, on fait réduire, ajouter l'ail et tout.
Les palourdes qui sont chères hein, cette année.
On est à combien de kilos en ce moment? Vous avez un prix ou pas?
Alors, sur les côtes, on est grosso modo entre 10 et 15 euros le kilo.
Ouais, ça reste un produit cher. Ouais.
C'est-à-dire que là, oui, cette année, c'est plutôt un produit qui n'est pas très bon marché par rapport à d'habitude.
Il y a du fromage?
Il y a du fromage de chèvre. Quand on est en Aunis et en Saintonge, la moitié des fromages de chèvre consommés en France sont produits dans cette région. Alors, à part le chabichou du Poitou, n'est-ce pas? Je me souviens plus comment il a obtenu son label de qualité, celui-là. Mais il n'y a pas de fromage particulièrement star. C'est plutôt des fromages de producteurs qui donnent le caractère de leur fromage comme ils ont envie de le faire. Ce qui est sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les fromages de chèvre se sont implantés dans cette région il y a très très longtemps. Souvenez-vous, Charles Martel, Poitiers 732.
Les Alamans.
Exactement, ils repoussent les Sarrasins. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, eh bien, on se promène avec son garde-manger quand on fait la guerre. Il y a les militaires devant, et puis derrière, il y a toute la tendance qui suit. Et en fait, les chèvres sont arrivées dans cette région, et le savoir-faire du fromage est arrivé en Charente, machin, grâce aux Sarrasins qui envahissaient la France. Et les chèvres, et certains d'entre eux, ont fait souche dans cette région. Et c'est comme ça que, depuis, que ce soit en Touraine, en Poitou, en Charente, on a les plus beaux fromages de chèvre de la terre.
Ben voilà pour l'histoire. On aurait pu vous parler de l'oignon rouge de la région de Niort.
Très bon.
On aurait pu vous parler des pommes de terre de l'île d'Orée.
Ben ça, c'est quand même en quelques mots. C'est le produit phare de l'île d'Orée. Non?
Évidemment.
On l'appelle primaire parce qu'elle est récoltée avant la complète maturité. La peau, elle est toute fine, elles sont toutes petites. Il ne faut pas l'enlever, justement. Il faut vite les manger, elles ne se conservent pas. C'est un produit frais et jusqu'à fin juillet, on peut vraiment en profiter encore en primaire.
Ça tombe bien, puisque justement, dans un instant, vous allez nous donner votre choix du jour à base de pommes de terre. On parle gratin dauphinois. Voilà. Ce sera dans quelques minutes sur RTL. J'ai compté. Voici Pascal Obispo. C'est son tout nouveau titre sur RTL.
J'ai compté mes soldats de plomb, petit sergent-major. J'engageais des batailles, prendre les châteaux forts. Compter les marches d'escalier, j'escaladais les ratures. À deux pour mieux la retrouver, glisser les fermetures. J'ai compté. J'ai brillé, résisté à la loi du plus fort. Quelquefois retourné ma veste, ai-je raison ou tort? Traversé des palais éteints, j'en voyais pas les murs. Puis j'ai compté plus loin, prendre une bouffée d'air pur. J'ai compté les jours et les journées. Jamais compté sur personne, à quoi sert de rêver? J'ai compté, recompté. Des photos, des chansons. Je chante encore et je pleure. Des rivières par amour. Je compte bien le reloader, puis le garder toujours. Mais nous seuls.
Comté qui annonce le retour aux affaires de Pascal Obispo sur RTL. Dans un instant, on a sorti les pommes de terre de l'île de Ré. On vous donne la recette. Le choix de Luana, le gratin dauphinois à l'italienne. Eh oui. Ça peut surprendre.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et avec Luana Belmondo qui chaque jour vous donne une petite recette de son cru. Je vais vous dire un truc, Luana. Il va y avoir, et retenez bien ce que je vais vous dire, il va y avoir un avant et un après à cette recette. Je vous explique pourquoi.
C'est ce qu'on était en train de se dire.
Parce que vous vous attaquez à un monument, hein, le gratin dauphinois, que vous allez avoir l'audace de revisiter un peu à l'italienne. Ouais. Il est des monuments qu'on ne revisite pas.
C'est vrai.
Et pourtant,
donc je commence par demander. Moi, je commence par demander un plus aujourd'hui, fête nationale. Pardon à tous les Français.
Voilà.
Voilà, jour du 14 juillet. Si je me suis permise de faire un gratin dauphinois à ma façon, donc je m'excuse complètement. Mais en même temps, c'est une recette différente. Et vous savez quoi? La cuisine n'a pas de frontières, n'a pas de règles.
Vous assumez vos différences.
Alors, on va commencer à prendre des petites pommes de terre de l'île de Ré. On va les faire cuire. Alors, vous savez que le démarrage de la cuisson d'une pomme de terre, ça c'est hyper important, c'est toujours à froid, dans de l'eau froide. Donc, on le plonge dans une casserole d'eau froide. Au moment que ça commence à bouillir, on va rajouter une pincée de sel et on les cuit à peu près 5 minutes, pas plus, on n'a pas besoin parce qu'on va faire un gratin avec. On les laisse entières, elles sont tout petites, à la limite vous pouvez les couper en deux, mais pas plus. Dans un bol, on va mélanger. Alors, moi, je mets du coulis de tomate, mais vous pouvez mettre aussi des tomates fraîches ou alors, pourquoi pas, vous savez, des tomates cerises que vous avez. Les tomates, elles sont bonnes en ces moments, c'est la période. Un oignon fraîchement coupé en fines lamelles, un peu d'origan, du sel, du poivre et on mélange le tout. Alors, on va faire chauffer à petit feu dans une casserole un petit peu de lait avec un peu de noix de muscade râpée. Et on rajoute un peu de crème. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est tout ça? On va prendre un plat qui va le four.
Qu'est-ce que c'est tout ça?
Et c'est une délice absolue, je vous promets, faites-la, c'est super bon. Je vous l'amène demain si vous voulez.
D'accord.
On préchauffe le four à 180 degrés. On met les pommes de terre à la base du plat. On va arroser le plat avec justement, on réunit, vous savez, on a fait chauffer le lait avec la crème et un peu de noix de muscade. On la réunit tout ça à la sauce tomate ou aux tomates avec, comme j'ai dit, des oignons et de l'origan. On la met par-dessus, donc on arrose
on
le
nappe,
plat.
Hein, on nappe.
On arrose le plat, on nappe et on termine. Alors, on va cuire le mélange, tout ça, pendant une heure au four. Et à la dernière minute, on met soit des fines lamelles de parmesan et pecorino, soit, moi je l'ajoute, du jambon de Parme qui va donner un côté croquant.
Au criminel.
Et vous avez un côté, à la dernière minute, vous les faites cuire vraiment sur le grill et vous avez ce côté moelleux, croquant, onctueux. C'est très bon. Je sais, c'est pas un gratin
Luana,
de finan.
Voilà, Luana. Je vous aime infiniment.
Comment on peut l'appeler alors?
Vous appelez, on va l'appeler
le gratin,
de pommes de terre à l'italienne.
À la Luana.
Ou le gratin de pommes de terre Belmondo.
Oh, ça c'est joli.
Un gratin Belmondo. Mais surtout, ne mêlez pas le dauphiné à ça parce que.
D'accord.
Il va vous arriver des problèmes.
Je me plie à vos volontés.
Le gratin de pommes de terre à la Belmondo. La recette est à retrouver sur le site de notre partenaire Cuisine AZ. Dans un instant, le grand jeu de l'été sur RTL pour gagner un MacBook Air ou une trottinette électrique. A tout de suite sur RTL.
Bonne journée et bel été sur RTL.
C'est le grand jeu RTL de l'été.
Le grand jeu RTL de l'été dans RTL vous régale. On va accueillir Céline. Bonjour Céline.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Vous êtes à Saint-Apollinaire.
Oui,
c'est en Côte d'Or.
Oui.
Où vous venez d'emménager d'ailleurs, paraît-il.
Exactement.
Vous êtes dans les cartons, là, à l'heure où on se parle?
En plein dans les cartons.
Il faut que ça se fasse, évidemment.
Oui.
J'espère que vous allez en faire un de carton dans un instant, parce que vous avez le choix, vous savez. Vous pouvez jouer avec Stéphanie Loire ou avec Jean-Alphonse Richard. Il y a en jeu un MacBook Air ou une trottinette électrique.
Génial.
Et vous allez jouer avec
Jean-Alphonse Richard.
L'excellent Jean-Alphonse Richard que vous retrouverez dans Confidentiel. Tous les jours de l'été sur RTL, le thème de ce mardi, c'est Catherine Deneuve.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je suis ravi de vous offrir une trottinette électrique.
Oh, génial!
Elle est pas belle l'histoire?
Super.
Et ben voilà, une trottinette électrique Slide Ride-On avec son moteur puissant et une batterie longue durée. On va vous envoyer ça à Saint-Apollinaire très rapidement, là où vous faites des spécialités, paraît-il, de lasagne. En ce qui vous concerne, on parlait de cuisine italienne à peu près il y a un instant. Vous, c'est chèvre épinard, la spécialité
chèvre
de la maison.
Ouais.
Oh, c'est trop bon.
C'est trop, trop bon.
Vous voyez, j'accepte le chèvre et les épinards dans les lasagnes, moi.
C'est normal, hein, c'est un
génial.
Classique.
Avec
du parmesan.
Avec du parmesan.
De la ricotta.
Bien sûr.
Je ne vous fais pas tout au moral.
Bon,
c'est très bon, bravo.
Céline,
oui.
On espère que vous passez un très bel été avec nous, qu'on vous donne l'envie de cuisiner un peu plus encore.
Été comme hiver, RTL, pas de problème.
Ben, tout est dit, je vous embrasse.
Super.
Moi aussi.
Très bel été à vous, à bientôt.
Merci.
Prochain
beaucoup,
rendez-vous du grand jeu RTL de l'été, tout à l'heure dans les grosses têtes. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210 ou en envoyant RTL par SMS 74 900. Bonne chance.
Jusqu'au 2 août,
c'est le grand jeu RTL de l'été. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Alors, si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission aujourd'hui, je vous parlais de la jonchée en début d'émission, tout à l'heure vers 11h. C'est un fromage frais qui est originaire de Charente-Maritime. Et la surprise du chef, c'est qu'on a évidemment retrouvé le dernier producteur au monde à faire de la jonchée artisanale, c'est-à-dire dans du jonc naturel. Il s'appelle Eric Jardin, il est avec nous au bout du fil. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RTL. Alors la jonchée, si je vous donne 20 secondes pour nous dire exactement ce que c'est. Non mais très vite, hein, c'est un exercice, après on en parlera en détail. Mais en 20 secondes, c'est quoi?
Alors en 20 secondes, ce n'est pas un fromage, c'est un laitage.
Voilà.
Ça se mange en dessert et ça se mange sucré. Ou avec un colis de fruits rouges.
D'accord, mais donc on ne peut pas parler de fromage frais?
Non, pas du tout. Non, ça s'est toujours mangé en laitage, ça s'est toujours mangé en dessert.
Pardonnez-moi. N'empêche que c'est fabriqué à partir de lait de vache frais. Et voilà. Et c'est donc sa particularité, c'est que c'est présenté dans cette espèce de paillon de jonc tressé.
Oui, tout à fait. C'est le jonc qu'on ramasse dans le marais, que l'on coud. Ça fait une petite paillasse de 30 cm de long par 15 de large. Et on met le cahier qui a été coagulé depuis à peu près une heure dans le jonc, mais deux électriques aux extrémités, c'est qui donne la forme et le goût. Car le jonc développe un petit goût herbacé.
D'accord.
Et la base de la jonchée, c'est fait avec du lait cru. C'est-à-dire, je vais chercher le lait à la ferme, je le transforme aussitôt le soir et le lendemain, vous l'avez dans votre assiette.
Est-ce que je me trompe si j'ai l'audace d'ajouter qu'on y ajoute un petit parfum en plus?
Oui, alors là, tout dépend des secteurs. Il y en a qui la préfèrent nature et d'autres amandées.
C'est ça. Vous faites quoi, perso?
À la demande, à la demande du client.
Pas à l'amande, à la demande.
À la demande du client. C'est comme du côté Oléron, il la mange plus nature que parfumée. Et chez nous, c'est du 100% amandé.
Voilà, tout simplement. Donc ça se mange comme un dessert.
C'est ça. C'est tout à fait un dessert. C'est très léger et c'est très frais. C'est très rafraîchissant quand il fait chaud comme ça.
Et c'est extrêmement technique à faire. C'est super difficile. C'est pour ça que vous êtes sans doute le dernier, parce que c'est justement un geste qui est pas simple. C'est quelque chose. Moi, c'est ce que je disais en débutant cette émission. C'est une véritable œuvre d'art, la jonchée saintongeaise. Et c'est formidable que vous préserviez ce savoir-faire français, parce que sans vous, ça n'existerait plus.
Tout à fait. Et malheureusement, j'arrive près de la retraite et je commence à chercher un petit repreneur qui puisse travailler dans les mêmes conditions que moi.
Ben, j'en ai un à ma droite.
Bon, ben, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du patrimoine Rochefort et c'est vrai qu'il ne faudrait pas que ça se perde.
Ça fait non seulement partie du patrimoine de Rochefort, ça fait partie du patrimoine français, du panthéon gastronomique de l'archipel français. Et ce n'est pas pour rien non plus que François Mitterrand en était friand de cette jonchée saintongeaise qu'il faisait, qu'il réussissait à la faire venir à l'Élysée dans ses cuisines privées ou pour des déjeuners de famille. Et je le comprends totalement, parce que qui n'a pas goûté une fois dans sa vie de la jonchée ne sait pas ce que c'est qu'un dessert fromager comme ça, qu'un dessert laitier. C'est quelque chose de totalement sublime. Vraiment, il faut aller goûter ça.
Qui n'a jamais
goûté la vraie jonchée au jonc naturel.
Exactement.
Merci Eric Jarnon. Je rappelle que vous êtes le dernier producteur au monde, carrément, à faire de la jonchée artisanale. Et c'est pas rien, parce que les joncs, je l'ai pas dit, mais les joncs, oui, ils sont récoltés chez vous, à côté de la fromagerie, au bord de l'étang tout proche. Voilà, c'est un vrai boulot. Et je crois que la récolte, elle va avoir lieu le mois prochain, ça, c'est pendant le mois d'août, je pense.
C'est ça. Bon, on a commencé un peu aussi, mais c'est pas du paillasse, c'est pas du jonc qui va durer dans le temps. Donc là, ils ont pris un peu de sécheresse, donc ils sont un peu plus durs. Ceux-là vont se conserver.
Oui, quand on vous dit que c'est de l'artisanat,
c'est magnifique.
Voilà.
C'est magnifique.
Et nous, on avait envie de vous rendre hommage. Effectivement, c'est
merci,
de l'amour.
Merci, merci vraiment.
Continuez comme ça. On vous embrasse, Eric. Bonne journée à vous.
Allez, merci. De même, merci.
À bientôt. Le défi frigo sur RTL. Dans quelques instants, on vous annoncera qui et quoi dans un frigo. Ne bougez pas, c'est un duel fratricide qui les oppose tout l'été. Luana Belmondo contre Jean-Sébastien Petit-Demange.
J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait. Le temps a filé en douce, on m'en parlait. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux.
Allez, reste, boulevard des airs et Vianney sur RTL.
C'est l'été sur RTL.
11h-12h30.
RTL vous régale.
Il existe un frigo à Mondeville, près de Caen, dans lequel nous allons découvrir un ingrédient. C'est le frigo de David. Bonjour David.
Bonjour Jean-Michel,
alors,
bonjour à tous.
Deux
bonjour.
Recettes originales en 4 minutes, le temps des infos qui arrivent tout de suite sur RTL. Avec quel ingrédient?
Alors une courge spaghetti.
Une courge,
spaghetti.
Ah, je d'accord. Peux vous faire juste des spaghettis?
Non, mais bah oui, avec les palourdes comme tout à l'heure.
En revanche, il va falloir, il y a une donnée supplémentaire, une difficulté, c'est que vous voulez pas de viande parce que vous êtes plutôt végétarien.
Exactement.
Bon. Ah, vous ne mangez pas. Très bien.
Voilà le défi. Vous écoutez
RTL.
Donc,
pas de bolognaise alors.
Il est midi, on se retrouve dans un instant. Le temps des infos, présenté par Olivier Bois.
Et Jean-Michel, on va partir rejoindre Pierre-Julien, place de la Concorde. Notre fil rouge ce matin pour suivre la cérémonie du 14 juillet. Pierre, on l'a dit, cérémonie restreinte, cérémonie particulière. Hommage aux soignants et hommage à tous ces militaires qui ont participé à la crise sanitaire.
Oui, vous l'entendez derrière moi, énormément d'applaudissements parce qu'on vient de vivre une véritable séquence
très forte en émotion avec quelque chose d'exceptionnel, un éclatement de la patrouille de France bleu, blanc, rouge juste en face de l'obélisque de la place. Et puis surtout c'est ce personnel, ces représentants des différents régiments, évidemment le service de santé des armées, mais aussi ceux du 2e Dragon, par exemple, hein, spécialisé dans la lutte NRBC, les radiologiques nucléaires et puis les bactériologiques, le 24e Régiment d'infanterie, avec ce grand drapeau bleu, blanc, rouge qui est déployé devant la tribune présidentielle. Un défilé qui s'est remarquablement passé, malgré la traîtrise peut-être du pavé parisien ici dans cette place de la Concorde qui est quand même assez restreinte. Bon, elle fait 8 hectares, j'allais dire soi-disant. En tous les cas, un remarquable défilé. Colonel Brulon, vous êtes le porte-parole de l'armée de terre.
Oui, un superbe défilé malgré un dispositif inédit et des conditions qui n'étaient pas faciles au départ mais qui ont été largement rempli, et un défilé qui a vraiment rempli son office.
Voilà, les armées hein, et qui rendent aussi un hommage aussi, et bien évidemment, à tous ceux, aides-soignants, civils et militaires, bien sûr, et vous entendez, ça continue toujours à poser. Toutes les délégations présentes ici, je vois autour de moi les ambassadeurs, les attachés de défense, tous les membres du gouvernement et bien sûr le président de la République et son épouse Brigitte qui applaudissent et applaudissent encore. Eh bien, c'est valeureux guerrier de ce combat contre la Covid-19.
Ah oui, Pierre-Julien, et on voit d'ailleurs sur les images là, l'émotion de tous ces personnels soignants face aux applaudissements très fournis effectivement ce matin. Après cette cérémonie, Emmanuel Macron renoue cette année avec la tradition de l'interview télévisée face à deux journalistes, en l'occurrence Gilles Boulot et Léa Salamé, le président de la République qui voudra tracer les perspectives pour les mois à venir, le plan de relance, l'accompagnement également pour l'emploi des jeunes. Peut-être des annonces sur le port du masque, des médecins réclament qu'il soit rendu obligatoire dans les lieux clos, comme ça vient d'ailleurs d'être décidé à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. La ville connaît là-bas un regain de contamination ces derniers jours. Vous pourrez suivre toute l'interview d'Emmanuel Macron sur RTL, édition spéciale avec Christelle Robière jusqu'à 14h30. La météo et le temps de cet après-midi, ciel gris, faible pluie des Pays de la Loire à la Belgique, en passant par le bassin parisien. Quelques timides éclaircies reviendront par le bord de la Manche. Il fera beau sur le Languedoc, le sud de l'Auvergne ou encore le nord de l'Occitanie, pour des températures comprises entre 19 degrés cet après-midi dans le nord-ouest, jusqu'à 33 degrés autour de la Méditerranée.
Pour que tout roule sur la route des vacances, préparez-les avec Oscaro.com. Oscaro, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet.
Le quintet tout à l'heure à 15h15 à Longchamp. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 16, le 4, l'As, le 7, le 8, le 12 et le 9. La course sera à suivre sur 6play.fr. Pour l'heure, il est midi 4 sur RTL. On vous retrouve Jean-Michel Zeka.
Merci Olivier. Et prochain point sur l'info, tout à l'heure à midi et demi.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Mesdames et messieurs, c'est l'heure du défi frigo. Il est quotidien et je vous le disais, cet homme, Jean-Sébastien Petit de Mange, fomente dans son coin une espèce de stratégie nauséabonde depuis le début de cette émission afin de marquer son deuxième point aujourd'hui. Explication, Jean-Sébastien.
Mais pas du tout.
Si.
C'est dans vos fantasmes.
Si.
Explication. C'est dans vos fantasmes.
Dénoncez-vous.
De quoi parlons-nous ?
Parlons
cuisine.
Nous parlons du fait que vous êtes le seul Français dans ce studio entre Louana et moi.
Oui,
on est d'accord.
Non,
vous parlez du fait que nous sommes le 14 juillet et que par conséquent vous vous devez d'emporter le défi frigo du jour.
C'est-à-dire que je trouverais malvenu.
voilà. On y arrive.
Mais bon, puisque vous
David, je vous en conjure. Ne vous laissez pas prendre à ce jeu. Vous avez dans votre voilà, n'abondez pas dans son sens. Vous avez dans votre frigo une courge spaghetti. Alors je vais être très honnête, hein, je vais vous dire, je connaissais le western spaghetti, la courge spaghetti, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ça ressemble à comme un gros melon. Et lorsqu'on le cuit au four, on récupère donc des filaments qui ressemblent à des spaghettis à l'intérieur.
D'accord. Et ça se cuisine.
C'est assez surprenant. Oui, ça se cuisine.
On la regarde, on la contemple.
C'est dingue. On va commencer avec Jean-Sébastien qui vous donne sa recette originale à base de courge spaghetti.
Pourquoi je commence?
Parce que c'est Vive la France aujourd'hui.
C'est le 14 juillet.
C'est,
voilà.
C'est pas parce que Louana n'a pas de recette encore.
Une recette, s'il vous plaît.
Moi, je dis ça, je dis rien, hein, simplement.
Allez-y.
Écoutez, non seulement je vais vous faire une recette qui va être végétarienne, mais carrément, je vais vous faire une recette vegan. Avec cette courge spaghetti que vous allez faire en rémoulade. En fait, vous allez laver, vous allez percer votre courge et vous allez la cuire à l'anglaise. À partir autour de 25 minutes.
On peut expliquer ce que c'est que la cuisson à l'anglaise.
Et vous allez avoir cette courge spaghetti qui va effectivement se déliter. La cuisson à l'anglaise, vous la mettez dans un grand volume d'eau. Là, vous n'allez pas la cuire au four. Vous allez mettre dans un grand volume d'eau bouillante salée et puis vous allez stopper la cuisson en la plongeant dans de la glace. Donc, vous percez votre courge. Vous la faites cuire dans de l'eau bouillante salée. Vous la stoppez dans la glace. Vous la faites cuire grosso modo 25 minutes. Vous fendez votre courge en deux. Vous retirez les pépins, évidemment, que vous pourrez faire griller par ailleurs. Car ça, c'est intéressant. Les Canadiens font ça, c'est fabuleux.
C'est très
avec
bon.
Avec un peu de sirop d'érable. Vous mangez ça à l'apéritif en pickles. C'est tout à fait superbe. À partir de là.
Donc une fois qu'on a fendu la courge.
Voilà. Vous avez trouvé des girolles quelque part. Il commence à en avoir. Vous allez nettoyer vos girolles et vous allez faire sauter vos girolles dans une matière grasse, pourquoi pas d'huile d'olive, hop, vous faites sauter, et vous mettez un petit tour de moulin à poivre, un petit tour de moulin à sel sur vos girolles, vous les réservez. Vous détaillez, donc vous tirez votre courge, vous en faites des spaghettis, et vous allez préparer une petite sauce avec de l'huile de pépin de raisin, du vinaigre de xérès, de la ciboulette ciselée, un peu de moutarde, du sel, du poivre. Vous mélangez tout ça, vous en faites votre petite sauce rémoulade. Vous mélangez vos spaghettis de courge avec cette sauce. Vous posez les girolles dessus, encore un tout petit peu tiède. Si d'aventure vous avez quelques amandes effilées, vous les faites dorer à la poêle, à sec, et vous posez ces amandes chaudes sur votre salade. Vous avez une rémoulade de courge spaghetti avec petite comme ça poêlée de girolles. C'est bon ça.
Très bien.
Moi, ça me plaît.
Bon. Ouais, c'est pas mal.
Moi je voterai pour moi.
Ah oui.
C'est un truc dingue.
Alors j'ai à ma droite j'ai des champignons sur la courge.
Bon, moi je pars. Hein.
À ma gauche.
Mais vous avez perdu tout sens commun.
À ma gauche. Luana.
Non moi je vais faire un rosti.
Hein?
Un rosti. Avec la courge.
C'est donc une rochette.
Vous connaissez, David, ne vous laissez pas intimider par
ces
deux garçons. Vous connaissez le rosti. En fait, ce sont des galettes des pommes de terre.
C'est quoi son prénom fait...
David, ce sont des galettes des pommes de terre. Donc, alors, vous allez couper votre courge en deux, dans le sens de la longueur. Vous allez la badigeonner avec un peu d'huile d'olive, vous allez saler, poivrer un peu. Vous la déposez, la chair vers le haut sur une plaque à four, pendant une trentaine de minutes à 180 degrés. Attention, pendant la cuisson, il faut la retourner. Vous la laissez un peu refroidir et à ce moment-là, vous allez gratter la chair à la fourchette pour avoir les fameux spaghettis. Dans un saladier, vous allez laisser encore refroidir. Vous allez rajouter des œufs battus, de la farine et des herbes. Les herbes que vous aimez, des herbes des Provence, des herbes fraîches. Moi, je préfère un peu de sauge, que ça va raviver un peu le goût. Vous salez, vous poivrez de nouveau et vous formez des galettes. Donc, des galettes avec vos mains. Il faut mouiller les mains quand on fait les galettes, hein, toujours. Donc des galettes que vous allez cuire dans un poêle bien chaud avec un peu d'huile d'olive. Vous allez réserver le tout dans un four à 80 degrés pour que ça reste croquant, croustillant, moelleux et aussi au chaud. À ce moment-là, c'est la période des petits pois. Vous faites juste revenir des petits pois que vous faites saisir avec de l'huile d'olive, tout simplement, et un peu d'échalote. Vous avez besoin de rajouter vraiment un fond d'eau, pas plus. Il faut qu'ils soient croquants et croustillants. Vous réservez. Vous allez monter, en fait, une crème liquide en chantilly avec des piments d'Espelette. Donc, ça va donner cette touche un peu, on va dire, un peu du peps, on va dire, dans tout ça, dans toute cette douceur, parce qu'on a les petits pois, on a la courge. Et vous allez commencer à faire le montage de votre galette, qui ça peut être un plat complet, donc un plat végétarien de nouveau, pas vegan, mais végétarien, parce que j'ai de la crème liquide. Donc, vous posez votre galette dans l'assiette. Par-dessus, vous mettez les petits pois bien frais, très juste saisi. Une belle quenelle de crème chantilly au piment d'Espelette. Puis vous ciselez de la menthe fraîche et vous allez vous régaler parce que ça, c'est quelque chose de sublime. On est sur le croquant, le moelleux, le croustillant, les légumes des saisons. C'est juste un pur bonheur.
Très bien, on a compris. La quenelle. David.
Ouais.
Moi, je voudrais pas être à votre place.
Non, parce que le niveau est très très élevé là. D'abord,
est-ce que vous vous sentez capable de reproduire les deux recettes? C'est important ça.
C'est vrai que j'ai. Il y a du gros niveau. Il y a du gros niveau. Après, la chantilly, moi, ça me plaît bien en fait par rapport à la technicité, ouais, donc ça passe aussi la chantilly. Ouais.
Chantilly avec une petite pointe de piment d'Espelette. Ouais. Ça ne nous dit pas ça si vous choisissez la recette de Louana.
Non, ça ne me dit pas, mais techniquement, oui, ça doit pouvoir se faire celle de Louana et celle de Jean-Michel également. Mais,
c'est Jean-Sébastien. Voilà. Hein.
Mais ceci dit,
on va peut-être rajouter Jean-Michel dans le jeu un jour. Parce que...
histoire de mettre tout le monde d'accord.
Voilà.
David, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Sachant que Jean-Seb mène 1-0.
Non, sachant que nous sommes le 14 juillet.
Oui.
Jean-Sébastien. J'aimerais d'ailleurs qu'on mette un peu la Marseillaise.
Stop.
Il est
12h12. Quel est votre choix? Quel est votre choix?
Je vais retenir Louana.
Merci. Ben, je ne vais pas à la frontière avec mon passeport. Jean-Sébastien Petit-Démange, je serai encore là demain.
C'était un 14 juillet 2020.
Bravo Jean-Sébastien, c'était très, très original.
Non, mais ne vous excusez pas.
J'adore ces instants. Le temps suspend son vol.
Merci David.
David, on va vous envoyer un guide du routard offert par les éditions Hachette, évidemment. Et une montre RTL. On rappelle que pour lancer un défi frigo à Louana et Jean-Sébastien, c'est facile. 32-10 par téléphone, 64 900 par SMS avec le mot régal. Dans un instant, l'ambassadeur de toute une région. Il sera peut-être un jour maire de Saint-Jean-d'Angély.
Ah, enfin un ami.
Notre camarade Bruno Guillon sera avec nous. A tout de suite sur RTL.
Passez une bonne journée et un bel été avec RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
On vous en parlait, il y a un ambassadeur par jour dans RTL, vous régale. Et aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, puisque nous sommes dans sa région. Voici l'homme qui m'a fait découvrir les huîtres en crépinette. Salut Bruno.
Salut les amis, je tiens à dire que j'aurais voté pour Jean-Sébastien et ses giroles.
Quel
merci.
Faillot.
Merci Bruno, merci. Au revoir Bruno. C'est un je ami. Vous aime aussi Bruno.
Et vive la France.
Et tu sais quoi Bruno? La salade de poulet fumé. Hein, tu la demanderas là, aussi pas... à Jean-Sébastien, la recette.
Ça sent le règlement de compte. Bon, Bruno Guillon, puisqu'on vous a avec nous dans cette émission, faites-nous vite fait, je sais que vous êtes le chef pour ça, une carte postale autant visuelle que culinaire de cette région que vous connaissez et que vous adorez.
Alors, vous voulez plus le Nice ou la Saintonge? Parce que si vous me parlez de Nice, c'est La Rochelle. La Saintonge, c'est simple. C'est et moi, je me sens plus touché par la Saintonge parce que je suis de Saint-Jean-d'Angély qui est à côté de Saintes. Carte postale géographique, Saint-Jean-d'Angély, pour le coup, voilà, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut savoir qu'à Saint-Jean-d'Angély, le monument historique iconique de la ville, ce sont les tours de Saint-Jean. Donc quand on arrive vers Saint-Jean, on voit les tours et on se dit tiens, qu'est-ce qu'elles sont plantées là? Et en fait, c'est une partie de ce qui devait être la plus grande cathédrale d'Europe.
Ouais.
Parce que Saint-Jean, ça vient de Saint-Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus-Christ. Et donc sa tête est, selon la légende, sous l'église de Saint-Jean-d'Angély. Et donc ça devait être la plus grande cathédrale d'Europe. Mais les différentes invasions moyenâgeuses en ont décidé autrement et il reste qu'une petite porte qui fait quand même une centaine de mètres de haut. Et voilà, et c'est une ville magnifique. Moi, évidemment, j'ai grandi là-bas, donc voilà, je pourrais vous parler des balades près de la Boutonne, qui est la rivière qui traverse Saint-Jean-d'Angély. Il y a la Charente qui est pas très loin. Et si vous voulez que je vous parle de nourriture, voilà. Je vais vous parler de deux choses.
Alors attends, Bruno, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est que effectivement c'était un centre monastique dès le 9e siècle qui était amené à devenir quelque chose de totalement gigantesque. Mais il y a un c'est autre vrai. Moment, et ça Jean-Michel va être touché par cela, c'est que en fait Saint-Jean d'Angély a été remis à la couronne de France pendant la guerre de Cent Ans par un personnage essentiel de l'histoire, à savoir le connétable Bertrand du Guesclin. Qui en 1372
et c'est reparti.
C'est vrai.
Et il faut rendre hommage au connétable.
Il faut dès qu'on peut. Bon, blague à part, Bruno, sur les marchés en ce moment chez vous, vous achetez quoi de préférence?
Alors, il y a les légumes, que l'on trouve dans la région. Mais si je vais vous parler d'une recette, je vais pas partir sur les légumes. Voilà, je vais rendre hommage à ma mère qui doit être en plus en train d'écouter RTL comme elle le fait tous les jours. Je vais vous parler des anguilles à la persillade, qui pour moi, reste un des plats iconiques de ma région. Une petite poêlée d'anguilles avec une petite persillade et un verre de muscadet. Ou un verre de Pinot des Charentes fait par mon papa, ça va tout seul. Et en dessert, un gâteau qui est un peu étouffe chrétien, pardonnez-moi l'expression, mais moi, c'est vraiment le gâteau de mon enfance. Ça s'appelle le Mia. Alors, rien à voir avec la chanson d'Ayam. Le Mia M-I-2-L-A, c'est le Mia Charentais, c'est un gâteau à base de farine de maïs. Bon, vous en mangez un morceau, vous buvez un château d'eau derrière. Mais pour moi, ça reste des marqueurs forts de mon enfance. Voilà, c'est une région magnifique. Vous avez bien entendu les huîtres qui sont pas très loin avec le bassin de Marennes-Oléron. Et c'est vrai que les huîtres chez moi, on les mange, Jean-Michel, vous le signaliez tout à l'heure, avec des crépinettes. C'est de la viande hachée entourée d'une crépine. Et c'est le bonheur à l'état pur.
Je vais vous dire, j'avais goûté en son temps le fameux Mia. Ça m'avait laissé un souvenir. J'avais la sensation d'avoir mangé un sac de couchage. Vous savez, c'était terrible.
Je vais demander à un chef sublime qui est, on parlait des cuisines de François Mitterrand tout à l'heure. Il a été le chef de la cuisine privée de François Mitterrand. C'est Alain Darroze qui fait un Mia charentais absolument sublime. Ça va vous réconcilier avec le Mia parce que son Mia est sublime et je vais vraiment demander à ce qu'il en fasse et ce qu'on l'ait à la fin de l'été. On fera le passage de témoins, puisqu'on est dans ta tranche maintenant, Bruno. Hein.
Voilà, puisqu'on va vous retrouver à la rentrée à peu près à la même heure.
On fait les peintures pendant l'été, là.
Mais Jean-Sébastien, est-ce que vous êtes en train de suggérer que le Mia de votre copain chef est meilleur que celui de ma mère?
Non, je ne suggère pas ça. Je suggère qu'on n'est pas obligé de boire un château d'eau.
Bruno, est-ce que très vite, Bruno, est-ce qu'on peut toucher un mot de ce nouveau jeu qui arrive à la rentrée sur RTL?
Écoute, à la rentrée, on va renouer avec la grande tradition des jeux historiques d'RTL. Voilà, tous les matins entre 11h30 et 12h30, les auditeurs d'RTL vont pouvoir intervenir en direct pour jouer et pour gagner de gros cadeaux. Et puis voilà, on a un jeu qui moi me fait rire, mais le nom va vous parler, qui s'appelle le Tintin Talintin.
Là, vous allez me dire, j'arrivais pas à le dire.
Le Tintin Talintin, en fait, c'est le carillon d'RTL. Voilà,
c'est génial.
En fait, à chaque fin d'heure, il y aura une cagnotte que les auditeurs d'RTL tenteront de gagner en identifiant la personnalité connue qui fait le tin-tin-tin-tin. Et je peux vous dire que ça fait plusieurs semaines que l'on va en France, à l'étranger, enregistrer des personnalités qui font le tin-tin-tin-tin. Et ça pourra vous permettre de gagner beaucoup d'argent.
Voilà, il y a le tin-tin-tin-tin et le milou-loulou-loulou. C'était Bruno Guillon. On vous souhaite de belles vacances, Bruno.
Merci, Bruno.
On vous embrasse. Profitez-en bien. À bientôt. Dans un instant, on va partir ailleurs. C'est Jean-Seb qui nous emmène loin, très loin. À tout de suite sur RTL.
C'est l'été sur RTL.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Jean-Sébastien Petit-Demange pour nous emmener ailleurs dans RTL Royal tous les jours. Alors c'est vrai qu'on parlait des huîtres de Marennes-Oléron tout à l'heure.
Il faut savoir que ce sont les Romains qui, dès la Gaule conquise, ont pris l'habitude. On était à Sainte avec Bruno il y a quelques instants, à Saint-Jean d'Angély, Sainte, la Saintonge. Et en fait, c'est les Romains qui, arrivés là-bas, ont découvert les huîtres et ont créé une véritable route de l'huître pour rapporter des huîtres à Rome. Il n'y avait que les Romains pour faire un truc aussi barge que ça. Imaginez, 2000 ans avant nous, il y a des gens qui transportaient des huîtres sans frigo, sans manière de refroidir, et qui transportaient des huîtres depuis la Charente-Maritime jusqu'à Rome. Et ils avaient aménagé une route de l'huître où tous les régulièrement, ils plongeaient les huîtres dans des bassins d'eau pour qu'elles puissent se régénérer, pour qu'elles puissent survivre.
Pour les rafraîchir. En
fait, pour les rafraîchir et pour pouvoir les amener jusqu'à Rome comme ça. C'était une logistique impressionnante. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on mange des huîtres un peu partout dans le monde, malgré les idées reçues. Par exemple, dans un des coins les plus connus de l'Irlande, si vous, je vous fais écouter ça.
Au printemps suivant, le ciel irlandais.
Galway.
Oui. Nu dans un lac du Connemara.
Qui sait que la ville de Galway, capitale du Connemara, organise chaque année, fin septembre, une fête de l'huître pour finir, pour célébrer la nouvelle saison des huîtres. Je peux vous assurer que là-bas, on se fait des orgies d'huîtres pendant 4 jours, tout cela en buvant de la Guinness, parce que c'est organisé par la marque, et huîtres et Guinness, c'est un formidable mariage gastronomique. Galway, c'est un port qui à l'origine a fait fortune en tissant des liens commerciaux avec l'Espagne et avec la France. Et c'est autour du port qu'il faut prendre le pouls de la ville quand on est à Galway. C'est Kay Street a gagné depuis quelques années le surnom de Latin Quarter, et pour goûter l'Irlande, il faut aller plus au nord-ouest dans le Connemara. Il faut aller vers Clifden. C'est le véritable Connemara de carte postale. Vous avez une terre assez rocailleuse, très dépouillée, qui alterne avec des tourbières, avec des petits lopins de terre arrachés à la montagne. C'est un paysage qui change du tout au tout, mais en quelques kilomètres, parce que vous avez le temps qui va changer, des nuages qui vont créer des ombres, qui va faire un trait de lumière avec le soleil qui les traverse, et vous avez des collines pelées, des paysages lumineux, des panoramas à couper le souffle. Et si je vous dis que Marconi, là-bas je fais le lien avec Louana, Marconi y a établi à Clifden sa première base commerciale de télégraphie sans fil entre l'Europe et les États-Unis, parce qu'on était au plus près des États-Unis depuis Clifden. Ça crée un lien avec notre monde de la radio. Et lorsqu'on part dans le Connemara, il faut surtout aller le vivre en partant en randonnée. Carte et boussole indispensable, parce que les sentiers sont pas forcément balisés, et les seules choses qui sont balisées vous éviteront de vous plonger dans un marécage de tourbe et de vous retrouver jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux cuisses dans la tourbe, ce qui n'est pas simple, parce que là-bas le sol est une véritable éponge, une éponge sublime, mais une éponge quand même. Et cette éponge, elle rassemble toute la mythologie irlandaise. On trouve la culture, on trouve les coutumes gaéliques les mieux préservées, et si les saignées de tourbe ont la couleur de la Guinness, les Landes là-bas ont la couleur de la Smithwick, la grande bière rousse, et on en revient toujours, où qu'on soit, au plaisir de la bouche.
Jean-Sébastien Petit-Demange, ou la Saint-Patrick au cœur du mois de juillet. C'est un peu ça. A tout de suite pour la fin d'RTL Vaurial.
Bonne journée et bel été sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Nous étions dans l'Onis et la Saintonge aujourd'hui dans RTL vous régale. Demain, nous vous parlerons des marchés de Paris. Et ça va être très sympa parce que on va recevoir Stéphane Layani. Il est le président du marché de Rungis. Il sera avec nous ici en studio. Et puis Jean-Sébastien Louana, vous irez sur le marché de Neuilly. Oui. Car en face d'RTL, vous allez juste avoir traversé la rue.
Exactement.
Et nous révéler ce qu'on y trouve au cœur de ce mois de juillet.
Et on parle suffisamment peu de Paris.
Mais bien sûr.
Pour une fois en parler. Vous allez voir qu'il y a des marchés à Paris qui sont fabuleux.
Avec des producteurs directs.
Des producteurs extraordinaires. On va même découvrir un producteur italien avec Louana.
Louana
est amoureuse d'un jeune italien qui fait une mortadelle extraordinaire sur le marché de Neuilly.
Ne me regardez pas comme ça, Jean-Michel.
Vous me feriez des infidélités pour une mortadelle. Bravo. Défi frigo, un point partout, les amis. Nous remettrons le couvert demain pour un nouveau défi. Je compte sur vous. Demain mercredi, 32-10 par téléphone ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre message au 64-900. Bon 14 juillet, bonne fête nationale. Vive la France. Vous écoutez RTL. Il est midi et demi.